Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Binge Audio.
Salut, on est toujours ensemble, quelque part, dans un endroit confortable, dans la forêt ou dans un bar. Et moi, Victoire Tuaillon, je vous lis des extraits d'un livre que j'aime beaucoup et qui, je pense, va vous plaire aussi. C'est « Les luttes fécondes » de Catherine Dorion, qui entremêle des réflexions sur le désir et l'amour romantique, avec d'autres sur les révoltes et la démocratie. Alors je continue. La bulle du couple. J'aime penser que l'expression « la bulle du couple » cache une signification séditieuse. Comme ces poèmes russes de l'époque soviétique qui chiaient secrètement sur Staline en faisant semblant de parler du vent d'hiver. J'aime aussi penser que l'institution du couple est à l'amour ce que les institutions financières sont à la valeur des maisons. Quand l'amour, ou les maisons, perdent de leur valeur réelle, le rôle de l'institution, c'est de travailler à ce que l'ordre des choses ne soit pas inquiété. Non, non, rien n'a chuté. Les actifs sont solides. Sauf que la réalité fait son chemin par en dessous, et un jour arrive où le décalage entre le message officiel et la réalité est trop grand, ça tient plus, l'élastique pète, la bulle éclate, la vérité tombe sur le monde comme l'enclume sur le coyote. Au fond, ces hypothèques sont pourries. Elles ne valent pas 500 000 dollars comme nous le croyons. Elles ne valent rien, elles ne seront jamais remboursées. En fait, non, ce soir, ça m'apparaît clair, nous ne serons pas ces compagnons qui traversent le temps. C'est seulement après la rupture, dans ce nouvel espace-temps qui peut être large comme la liberté ou écrapouti comme la peine, qu'on réalise à quel point on a fait des choses absurdes pour empêcher la bulle de péter. Faire l'amour alors qu'on n'en a pas envie. Faire l'amour alors qu'on a envie de quelqu'un d'autre à la place. Ne pas faire l'amour avec cet autre. Se dévaloriser complètement parce qu'une personne, ne bande plus pour nous. Organiser un souper au resto pour se retrouver, alors que chacun se dit en lui-même que ça ne lui tente pas, qu'il aimerait mieux faire n'importe quoi d'autre qu'être assis là à feindre la tendresse pour ne pas provoquer la conversation fatidique. Toujours la peur. Peur de la crise. À tout prix chercher comment faire pousser encore du désir dans cette terre épuisée. Relancer l'économie et la croissance, même si l'envie de consommer et de travailler, ils nous l'ont tellement stimulé qu'il n'y a plus de jus dans le fruit. On a perdu tout notre spring. Mais ils persistent, font des campagnes de pub avec l'aide de psychologues pour trouver comment siphonner les gouttes oubliées, celles qu'on aurait cherché à garder enfouies au creux de notre carcasse vidée et terne. Alors, pour les conjoints, car c'est ce que les amants sont devenus, la vie émerge ailleurs, en dehors du couple, jusqu'à prendre assez d'ampleur pour faire flancher la grosse structure vide qui bouche le paysage et empêche l'avenir de percer. Il y a quelque chose en nous de plus intelligent que nous. Ensuite, il y a un passage que j'adore parce que ça répond à un certain discours qu'on entend de la part de toutes sortes d'éditorialistes, de faiseurs d'opinion à propos des mouvements de révolte. Souvent, on entend « vous savez pas ce que vous voulez, c'est quoi votre projet, est-ce que vous êtes avec un parti, gna 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 ». Je me souviens, on entendait tout le temps ça pendant Nuit debout en 2016, pendant les Gilets jaunes aussi. Et apparemment, il s'est dit la même chose pendant le Printemps érable. Donc, c'est le plus gros mouvement social qu'a connu le Québec ces dernières années. Et donc à ceux qui disent « vous savez pas ce que vous voulez », voilà ce que Catherine Dorion répond. Si. Mais si, nous le savons. Nous savons que nous recherchons quelque chose d'autre, qui n'est pas encore né, mais qui, dans l'antre du désir, existe déjà. Et nous sortons dans la rue, comme nous ferions un rêve cochon dans lequel nous baisons volcaniquement un homme dont nous ne savions même pas, avant d'y rêver, que nous le désirions. Au fond, c'est déjà là. Le monde ne se terminera pas avec ses mensonges gros comme la bedaine d'un addict au fast-food et avec ses millions de cyniques atterrés. Le désir se fout de notre abattement. Il a sa vie propre. Il n'est qu'énergie stridente. Et il nous consumera, nous aussi, le temps venu. Une année de sommeil. Les amours sont devenus jetables, dit-on avec dépit. Les amants sont des objets de consommation à obsolescence programmée. Mais si nous passons notre temps à nous jeter en si grand nombre les uns les autres, c'est peut-être aussi à cause du couple. Quand le couple chie, quand c'est fini, nous voilà obligés, pour ne pas souffrir, de jeter ce qui était encore bon. On apprend à ne plus se dire « je t'aime », à ne plus s'embrasser sur la bouche. Il faut couper. C'est ça l'obsolescence programmée. Un élément est brisé dans la machine, alors on catapulte le tout dans la poubelle. Redevenir libre, casser le contrat du couple, veut dire tout défaire. Alors que nous aurions pu simplement aller à la découverte du monde sans nous infliger toute cette souffrance, ces nuits blanches, ces points douloureux dans le ventre. Quelle tristesse cet amour qu'on tue, qu'on jette, quand c'était pas lui le problème. Qu'avons-nous fait ? L'amour est né, nous l'avons reconnu, et hop, nous l'avons enfermé dans un projet. Et maintenant, il faut tout défaire à la hache. Rien de bien différent dans la rue. Lorsque surgit des abysses de l'imprévisible, la poésie flamboyante du désir collectif, lorsque gonfle le nombre des manifestants et que renaissent des espoirs fous, les angoissés du cadre accourent. Qu'allons-nous faire avec ça ? Il faut rentabiliser ce mouvement de foule. Alors on encadre, comme on se marie. Nous manifestons ensemble sur ces bases communes-là, nous formulons ces demandes-là, nous cherchons à atteindre ceci, cela. Voilà le contrat qui lie les manifestants. Alors qu'il n'y a dehors pas d'autre désir que celui qui est déjà en train de s'exprimer, celui qui révolutionne déjà le corps et la pensée du monde, bien plus que ne le ferait n'importe quelle liste de demandes exaucées par le gouvernement. Comment ne pas être transformé jusque dans ses entrailles par la vue de l'humain qui manifeste sa joie de retrouver une meute ? L'humain qui observe son désarroi ordinaire se transformer en jaillissement fertile. Le beau de la vie n'a pas disparu, pantoute. Ce mouvement de foule extraordinaire n'a pas à être jugé à l'aune de l'atteinte ou non d'un objectif. Comme l'amour, comme le désir, il existe par et pour lui-même. Il se suffit superbement. Voilà. C'était des petits extraits des Luttes fécondes, un livre de Catherine Dorion que vous pouvez dès maintenant retrouver enfin dans vos librairies en France, puisqu'on vient de le republier dans la collection que je dirige, la collection Sur la table. Voilà, pour le repérer, eh bien, il a une couverture dans les violets profonds, avec un titre écrit en rouge, Les luttes fécondes de Catherine Dorion. Si ça vous a plu cette lecture, eh bien, dites-le nous, ça nous fera plaisir. Peut-être même qu'on en fera d'autres. Nous, on a bien rigolé pendant l'enregistrement. Derrière la console de son, il y avait Paul Berthiaud. Celle qui m'a dirigée, c'est Mathilde Delahaye, que dis-je, la doctoresse Delahaye, avec l'écoute complice de Juliette Libartowski sur une réalisation d'Elisa Grenet. Merci beaucoup pour votre écoute et vive les luttes fécondes. À bientôt.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux, des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants, en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.